Aujourd'hui, nous allons revenir à un sujet que nous maîtrisons parfaitement et qui est extrêmement simple, l'État et les services.
Bon baiser de partout. Une émission secrète de...
L'État et le renseignement.
Qu'est-ce que vous voulez ? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous ? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements.
L'État et le renseignement. Michel Debré, Premier ministre, répétait qu'un État bien ordonné exigeait le secret. Il le disait à ses ministres indiscrets qui faisaient le récit du Conseil des ministres à qui voulait l'entendre. Les gens d'État, ceux qui sont situés au sommet des hiérarchies, regardent comme un apanage le fait de détenir une part de ce secret qu'ils ont mission de ne pas répandre. Mais en système démocratique, la presse, elle, souhaite que soit réduit au plus juste le champ du secret. Certains rêvent même d'un monde transformé en maison de verre au nom de cette idéologie de la transparence. Wikileaks fait ainsi circuler sans scrupule excessif les informations qu'il peut saisir dans les cabinets et les chancelleries. Or, il se trouve que le terrorisme d'aujourd'hui joue lui aussi sur la publicité. Le métier de l'organisation État islamique est d'abord de programmer des mises en scène de plus en plus extrêmes afin de produire la sensation puis l'imitation. Face à ces agressions publicitaires, l'État doit reconstruire du secret. Mais le terroriste, ayant pour objectif de l'entraîner dans une surenchère folle, il doit aussi le faire en gardant un cadre juridique. Nous en sommes là.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sébastien Yves Laurent, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Nous en sommes là, il est peut-être temps de revenir un peu en arrière. Vous êtes l'animateur d'une équipe qui a préparé une grande exposition aux Archives nationales qui dure jusqu'au 28 février, les Archives nationales à Paris. Cette exposition est accompagnée d'un livre aux éditions Nouveau Monde, où vous insistez d'ailleurs sur le fait que les archives sont, d'une part, un lieu de secret, l'armoire de fer, où étaient consignés les secrets de la monarchie. Elle est là, au centre du bâtiment des archives de France à Paris. Et d'autre part, les archives sont les lieux de l'exposition, les lieux du dévoilement. L'État classifie, les archives peuvent déclassifier.
On est effectivement dans le lieu où, naturellement, cette exposition devait avoir lieu. Le lieu de la conservation et le lieu de la communication au public. Lorsque les archives nationales sont créées en 1790, il est dit que c'est désormais un patrimoine de la nation où l'on conserve et où, à terme, il est prévu de communiquer aux citoyens l'information détenue dans les archives.
1790, création des archives nationales, et puis l'année d'après, 1791, apparaît la notion de sûreté de l'État.
Alors c'est effectivement très tôt dans la Révolution qu'apparaît cette notion qui devient un principe juridique extrêmement structurant pendant deux siècles. La sûreté de l'État, elle est au cœur du code pénal jusqu'à sa révision au XXe siècle en 1992-94. Tout le secret de l'État est articulé autour de ce principe fondamental du droit, la sûreté de l'État hier, les intérêts fondamentaux de la nation aujourd'hui.
Aujourd'hui, alors il y a des documents qui sont classés, dites-moi si je me trompe, confidentiel défense, secret défense, très secret défense.
C'est exactement ça.
Quand je disais, et ça c'était pas exact, que les archives ont le pouvoir de déclassifier, c'est pas tout à fait ça. La déclassification ne peut avoir lieu que du fait du service qui a classé. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire il y a quelques jours, qui est passé peut-être inaperçu dans l'actualité. La conservatrice en chef du patrimoine de la DGSE, on expliquera tout à l'heure ce que c'est précisément que la DGSE, qui s'appelle déjà Madame Nathalie
X.
Ah, on ne peut pas donner son nom.
Ah, je ne crois pas.
Elle a donné une conférence de presse néanmoins.
Oui.
Pour expliquer que maintenant était déclassifié de manière exceptionnelle un certain nombre de documents classés défense, secret défense.
Alors effectivement, les archives des parties les plus secrètes de l'État s'inscrivent dans un double registre. La loi sur les archives, la loi aujourd'hui de 2008 et également un niveau supplémentaire de protection qui est le principe de la classification de l'information. Ce n'est pas d'ailleurs une spécificité française et pour avoir accès à des documents que produisent notamment mais pas exclusivement les services de renseignement, il faut être conforme à la loi de 2008 d'une part et au principe de la déclassification qui est fondamentale.
Sachez, chers auditeurs, que certains documents relatifs à la guerre d'Indochine sont ainsi maintenant déclassifiés. Les archives de la DGSE sont en partie ouvertes dans ce domaine. Je voudrais qu'on commence par la grande question de la distinction du civil et du militaire. Le renseignement pour l'État, c'est d'abord dans le domaine civil. C'est le renseignement sur l'état des esprits.
C'est exactement cela et c'est une spécificité française si on compare la France dans ce registre à d'autres pays européens. Très tôt, le renseignement en France, le renseignement d'État, a été marqué par sa dimension policière. En fait, dès la Régence que commence une surveillance politique très active dans la lieutenance générale de police de Paris. Et bien évidemment, l'épisode du Premier Empire et puis tous les régimes chaotiques que la France a connus au XIXe siècle ont contribué à renforcer ce renseignement intérieur et policier qui surveille effectivement l'état des esprits, la forme ancienne de l'opinion publique.
Et les dangers que l'opinion publique peut faire courir à un régime fragile. Quand la Troisième République, elle s'installe finalement dans une certaine durée, elle va privilégier, et en fait dès les années 1870, dès le début, le service de renseignement militaire. C'est l'arche sainte de l'armée qui doit produire du renseignement et ensuite le conserver dans son secret.
Effectivement, dès les débuts de la Troisième République, dans la décennie 1870-1880, les militaires font irruption sur la scène du renseignement public et tentent à marginaliser assez définitivement les diplomates qui assuraient la collecte du renseignement extérieur et ils parviennent même à avoir l'autorité hiérarchique sur la police et notamment la police de contre-espionnage. Donc les militaires, l'arche sainte de la nation, sont au cœur du renseignement étatique et ce, assez durablement au XXe siècle.
Avec deux phases de l'arche pour la collecte, la section de statistiques, pour l'analyse, le deuxième bureau. Alors nous sommes ici au deuxième bureau. En 1894, non sans être passé par le bureau de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, que fréquente évidemment son titulaire, mais aussi une femme de ménage.
Oh, pardon.
Entrez, madame Bastien.
D'habitude, il n'y a plus personne à cette heure-ci.
Je m'en vais. Je rangeais juste quelques papiers. Je vous laisse faire le ménage. Au revoir, madame Bastien. On va voir ce qu'elle a récolté aujourd'hui. Les blindes, dans mon bureau immédiatement. Capitaine, venez.
Oui.
Regardez, il y a un espion parmi nous. Ce bordereau le prouve formellement. Écoutez ça.
Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. 2. Une note sur les troupes de couverture.
3. Une note relative à Madagascar. 4. Le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne, 14 mars 1894. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours. C'est insensé. Un traître parmi nous.
Il faut prévenir immédiatement le ministre.
Extrait de l'affaire Dreyfus d'Yves Boisset. Et oui, c'est ainsi que commence l'affaire Dreyfus. L'état-major, on le sait, va identifier à tort le responsable comme étant le capitaine Dreyfus. Bon, c'est un événement total, global, l'affaire Dreyfus. Une des questions qu'elle pose vous intéresse, Sébastien Yves Laurent, au premier chef. Comment et jusqu'où se justifie le secret? Parce que l'état-major va défendre son erreur au nom du secret dont il est le dépositaire.
Le secret sur lequel l'état-major et la section statistique, les deux organismes, ils sont fortement articulés autour de ça. Et c'est ça qui va les renforcer durablement dans l'erreur et donner à cette affaire Dreyfus, et faire de cette affaire Dreyfus le fait social, le fait historique global dont vous parlez, qui au-delà d'une affaire d'espionnage et de contre-espionnage devienne un élément de crise morale et politique de la France de la fin du 19e siècle. Tout ça en raison d'un secret qui est étroitement conservé à une époque d'ailleurs où la classification, dans des termes modernes, n'existe pas véritablement.
Alors, l'état-major va être frappé, mais va garder ses fonctions de tutelle du renseignement. Et la guerre de 14 va justifier ce rôle. Alors évidemment, vous insistez beaucoup dans cette exposition Le secret de l'État aux Archives nationales sur l'autre grande coupure, 1940. Mais au-delà de cette coupure de 1940, quand vont se reconstituer à Alger d'abord en 1943 les services secrets par une fusion de ceux survivants de Vichy et de ceux de la France libre du général de Gaulle, on va revoir toujours cette opposition civile-militaire. Le général de Gaulle, lui, défend l'idée que c'est une responsabilité ministérielle qui doit s'exercer sur les services et pas seulement une responsabilité militaire.
Il le défend, mais quelqu'un près de lui le lui a soufflé très fortement. C'est un certain André de Wavrin, dit Passy, colonel Passy, qui a dirigé en 40 à Londres, tout auprès de lui, qui a créé les services spéciaux de la France libre. Ce Passy, il est formé à l'école britannique, à l'école de l'Intelligence Service, où les services secrets dépendent du Premier ministre et du Cabinet Office. Et il n'aura de cesse, en 44-45, ce Passy, d'inciter le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, à créer des services sur le modèle anglais, les sortants de l'état-major, pour les placer auprès de la présidence du Conseil. De Gaulle lui-même s'est laissé difficilement convaincre, mais de sa main même, je présente le document à l'exposition, il modifie jusqu'au dernier moment le décret de création du SDEC, les services spéciaux extérieurs, en décembre 45, signe de l'importance qu'il attache désormais à ce rattachement à l'autorité civile.
Alors le SDEC va s'occuper de la recherche d'informations et de renseignements susceptibles d'informer le gouvernement à l'étranger, notamment dans la zone traditionnelle d'influence française, et la DST, traduisez,
Direction de la surveillance du territoire.
Elle s'occupera du renseignement à l'intérieur. Tenez, je vais vous faire raconter brièvement une histoire très compliquée à laquelle est mêlée la DST. L'ennemi intérieur, très vite, à partir du début de la guerre froide, c'est les communistes.
Il n'y a qu'un ennemi intérieur dans la guerre froide. Le basculement pour les services français, c'est 1947 très précisément, avec une affaire assez célèbre, l'affaire du camp de Beauregard. Et l'État français, et notamment l'État soutenu par les radicaux, la SFIO, ont un ennemi politique et un ennemi d'État. C'est le communisme, qui est très puissant à la libération. Et la tâche principale de la DST, passer le temps de la liquidation des suites de la collaboration, qui s'achève en 47-48, c'est de lutter contre le communisme, et notamment les organisations autour du PC et autour de l'ambassade d'Union soviétique en France.
Eh bien, en 1954, Pierre Mendès-France étant président du Conseil, et François Mitterrand étant ministre de l'Intérieur, voilà que une délibération du Comité de la Défense Nationale est retrouvée entre les mains de responsables du Parti communiste et de la presse communisante, le journal Libération. C'était son orientation de l'époque. Et mise en cause la responsabilité d'un journaliste, André Baranès, qui appartenait à Libération, qui était membre du Parti communiste, mais jouait peut-être double jeu. La DST va être la première à enquêter, après quand même les services militaires.
L'opinion française, par ailleurs, vient d'être alertée par la mise au jour d'une troublante affaire qu'on appelle depuis l'affaire des fuites. Arrêté alors qu'il se dérobait aux recherches, le journaliste Baranès, qui semble avoir été l'élément principal de l'affaire, avouait avoir en effet reçu et transmis certaines pièces secrètes du Comité de la Défense Nationale. Le tribunal militaire, saisi de l'affaire, avait déjà convoqué l'épouse de Baranès. Et la poursuite de l'action judiciaire prenait une extension qui amenait tour à tour au cabinet du juge d'instruction diverses personnalités politiques.
Nous aurions dû nous douter peu avant la fin de la plaidoirie de Maître Tixier-Vignancourt, lorsque nous remarquâmes dans le fond de la salle la présence d'une cinquantaine de jeunes gens, la plupart étudiants en droit de la faculté d'Alger, que les choses allaient mal tourner. Et puis il y eut ce couplet final de Maître Tixier-Vignancourt, où il était question du nécessaire acquittement de Baranès, des morts de Douaumont, du drapeau, de la patrie, de la France en un mot et de son armée. Mais voici que la Brusse, nerveux à l'extrême, se dresse. « Monsieur le Président, dit-il en substance, ceux qui ont applaudi tout à l'heure Maître Tixier-Vignancourt l'ont fait surtout pour des motifs politiques. »
Quand l'affaire s'ébruite, que l'opinion se passionne, il y a eu un procès en 1956 dont on rendait compte ici Frédéric Potcher, l'inimitable Frédéric Potcher, il y a tout de suite une interprétation politique immédiate et là une récupération par l'extrême droite, Tixier-Vignancourt, grand militant d'extrême droite. Jean Did, à qui Baranès remettait ses papiers, avec qui il était en contact, a été élu député d'extrême droite cette année 1956.
Effectivement, est-ce que l'on retrouve à l'occasion de cette affaire des fuites, c'est un élément récurrent sous la Troisième et sous la Quatrième République, c'est que l'évocation des services de renseignement dans l'espace public et notamment dans les prétoires est très souvent l'occasion d'une politisation de ces enjeux, qu'il s'agisse d'une affaire de compromission du secret, comme on dira en termes juridiques, ou qu'il s'agisse d'une affaire plus importante, comme bien sûr l'affaire Dreyfus, on voit que l'ensemble des forces politiques s'emparent du sujet. C'est moins le cas sous la Ve République, c'est moins le cas depuis 1958.
Bon, je ne sais pas si c'est moins le cas aujourd'hui, mais restant un instant sous la Ve République, j'espère que nos auditeurs ont bien compris la distinction entre DST et SDEC, je vais vous faire entendre de nouveau un agent du SDEC. On fait l'alternance. C'est un agent qui est en fonction au Caire, où il distribue des images pieuses du président de la République de l'époque, René Coty. Mais enfin, il doit lutter contre le danger Nasser et il est dissimulé sous l'enseigne d'une SCEP. C'est peut-être pas indispensable de se souvenir du sigle. Enfin, ça veut dire Société Kairote d'élevage de poulets. Il semble parler et chanter, psalmodier toutes les langues. Vous avez reconnu Jean Dujardin dans OSS 117.
Eine Kippe, gelbe Kranin. Meles Hazin Magic Shunum Melekulium Ulit Nafnum Rak bin Nes Tumshi Fisharia Awes Kukulila Gudem Belha Testam Neha Hadi Vriz Vriz Yel Bulbul
Mamino, Mamino
Ufi Beri Rak Plum
Mamino, Mamino
Liluli Ulit Mahbul
Mamino
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'État et le secret avec Sébastien Yves Laurent, une exposition aux Archives nationales, un livre aux éditions Nouveau Monde, Hubert Benisseur de la Batte, alias OSS 117. C'est un ancien de la France libre. On est toujours là dans les années 50, on va aller vers les années 60, et puis le monde plus contemporain. Comment évolue le recrutement une fois que les aventuriers de ce genre sont peut-être un peu moins nombreux? J'imagine que maintenant, il faut être de plus en plus informaticien. On s'en soucie dès les années 1970, voire ingénieur en sécurité informatique, cœur de réseau, base de données, analyse des big data, etc.
Eh bien, avec la transformation radicale du renseignement qui a lieu dans le grand tournant de la société informatique et numérique dans les années 90 et qui voit le renseignement s'appuyer de plus en plus sur des outils techniques, eh bien, avec ce grand tournant, le recrutement évolue également. Jusqu'au tournant des années 90, l'essentiel des effectifs était des gens de terrain et des analystes, des officiers traitants. La part des ingénieurs, des mathématiciens, cryptologues, des gens spécialistes des systèmes d'information, à partir des années 90, n'a cessé de croître et l'on voit apparaître dans les services, la France n'a pas l'exclusivité d'ailleurs de cette évolution, un nouveau profil professionnel, celui de l'ingénieur.
Nostalgie, nostalgie, on entendait au SS 117, maintenant Pierre Dac.
Bon baiser de partout.
Une seule solution, faire passer une petite annonce dans les journaux.
Oh, êtes-vous bien sûr, mon colonel, que ce soit la seule décision qui s'impose, en l'occurrence ?
Qu'elle s'impose, en l'occurrence, ou en version originale, peu importe, c'est moi qui décide. Mademoiselle Truscott ?
Je suis à vous, patron.
Prenez le texte d'une petite annonce. Vous y êtes ?
Je suis tout à vous, patron.
Maison sérieuse, bien introduite sur le marché, cherche éléments dynamiques, ambitieux... doucement, hein. Pas trop, tout de même. Il y en a déjà un qui guette mon fauteuil, ça suffit comme ça. Écrivez donc, mademoiselle Truscott. Raisonnablement ambitieux, formation par nos soins, avantages sociaux, possibilité de devenir cadre, on n'attrape pas les mouches à vue du vinaigre, ni une bronchopneumonie dans un bain turc. C'est tout, mademoiselle Truscott.
Et le salaire, patron, il voudrait mieux indiquer le salaire.
Ah, très juste, mademoiselle Truscott. Alors ajouter salaire en rapport. Voulez-vous relire, s'il vous plaît ?
Mais, serre, B, intro, sur, marché, LM, dynam, res, ambi, forme, par, no, S, avant, soc, pos, dev, cad, salon rap.
Oui, c'est très bien, mais je ne vous avais pas demandé de coder ce message.
Mais il n'est pas codé, patron. Je l'ai rédigé en abrégé pour que cela nous coûte moins cher.
Élément ambitieux, pas trop tout de même, dit le colonel Hubert de guerre lasse. Ce qui se produit aussi dans la période où nous entrons maintenant avec vous, Sébastien Laurent, c'est un renouvellement des cadres très rapide à partir de 1980, au temps du colonel Hubert de guerre lasse. Il y avait eu Roger Vibeau, à la tête du SDEC pendant 15 ans. Ensuite, il y avait eu le comte Alexandre de Maranche pendant plus de 10 ans. Et après 1981, à l'arrivée de la gauche,
il y a une...
Et la cascade n'a pas fini depuis 1981 de couler. Avec des rebonds.
Sous François Mitterrand, c'est juste qu'il y a eu un grand turnover, dirait-on en termes managériaux modernes, un grand turnover à la tête de la DGSE. Et avec une évolution très importante au-delà de ce turnover, c'est qu'il semble que les personnalités, les officiers généraux à la tête du service, qui était une pratique courante sous la 4e et surtout sous la 5e République, eh bien tendent à se raréfier. Et on a aujourd'hui un ambassadeur de haut vol à la tête de la DGSE. Il y a eu avant lui plusieurs préfets. C'est quelque chose qui est aussi un legs des années Mitterrand.
Le rapport civil-militaire avec de plus en plus d'avantages aux civils.
Avec de plus en plus d'avantages aux civils. Aujourd'hui, le personnel civil est majoritaire à la DGSE, ce qui amène la France à rejoindre là aussi une tendance globale dans l'ensemble des démocraties libérales, où la part des militaires est marginale dans ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés de renseignement. Alors, ils conservent souvent des postes d'encadrement et de direction, mais l'essentiel des personnels qui analysent, qui produisent le renseignement, sont des personnels civils, qu'ils soient diplomates, techniciens ou analystes.
Ce qui est nouveau aussi, c'est que certains parlent. Bon, Roger Vibeau, il aimait bien se faire mousser dans la presse dans les années de la 4e République. Mais enfin, on a vu M. de Maranche interrogé longuement par Christine Krent en son temps, et... Pierre Marion, celui qui a été nommé en 81 à la tête du SDEC par François Mitterrand, s'exprimait lui aussi longuement et un peu amèrement. Parce que Pierre Marion, il venait pas du Sérail, il n'était même pas membre du Parti Socialiste, il imaginait qu'il allait être reçu par le président de la République toutes les semaines, comme Reagan recevait les chefs du FBI. Tu parles. Et dès 1982, il est mis à l'écart. Et revenant après la publication de son livre avec Jean-Marie Cavada dans La Marche du siècle sur cette époque et sur la difficulté de bien prévoir les attentats, il y avait eu Copernic en 80, en 82 Marbeuf, la rue Marbeuf et la rue des Rosiers, voilà ce qu'il dit.
En 81, il n'existait aucun organe de contre-terrorisme.
Vous voulez dire qu'un an après l'attentat de la rue Copernic à Paris, on n'avait pris aucune disposition pour lutter contre le terrorisme ?
Pas en tout cas au sein de la DGSE.
Bon, alors là, tout d'un coup, vous montez une division antiterroriste.
Je monte deux organes antiterroristes, l'un de renseignement qui était rattaché au contre-espionnage, oui. Et un autre d'intervention qui était rattaché à ce qu'on appelle la division action.
Oui, et puis à peu près dans la même époque, la DST monte également, elle, une unité antiterroriste, et puis on voit se former à l'Elysée, par ailleurs, une cellule antiterroriste sous la responsabilité du commandant Proutot. Alors, question tout à fait simple, est-ce que tout ce monde ne se marchait pas sur les pieds, et est-ce que vous communiquez entre vous ?
La coordination était insuffisante.
Insuffisante ? Oui. Ça veut dire que des renseignements ne circulaient pas ?
La coordination est un substantif. Les renseignements circulaient mal d'un service à l'autre. Et effectivement, vous mentionnez la cellule de l'Élysée. Lorsqu'elle a été créée le 18 août 82, si j'ai bonne mémoire, nous avions espéré qu'elle pourrait jouer un rôle de coordination. Et malheureusement, elle n'a joué qu'un rôle d'intervention directe, ce qui ne me paraissait pas devoir être le rôle d'un organe rattaché directement au président.
Alors Jean-Marie Cavada a peut-être lui un rôle un peu dénonciateur, mais au fond ce sont les mêmes questions qui se posent en 1982 et de nouveau en 2015, alors qu'on nous avait promis en 2008 que la réforme de Nicolas Sarkozy aurait des effets déterminants. Qui disait quoi, cette réforme ?
La réforme de 2007-2008 et les années qui suivent est pour les organes de renseignement absolument majeure. Jamais les services de renseignement n'ont été autant réformés sur une multitude d'aspects que depuis la Libération, qui voit, comme on l'a dit tout à l'heure, la naissance de la DST en 44 et du SDECE, du SDEC, en 1945. Donc la grande réforme du renseignement public, du renseignement d'État après 2008, c'est d'abord faire du renseignement une priorité d'État, avec deux livres blancs sur la défense, des lois de programmation militaire qui sanctuarisent le budget du renseignement, et puis c'est une réorganisation de ces administrations du renseignement, notamment la création d'une DCRI par la Direction centrale du renseignement intérieur, par fusion des renseignements généraux et de la Direction de la surveillance du territoire.
Alors expliquez-nous ça, la DCRI qui est devenue DGSI, j'espère que nos auditeurs continuent de suivre. Elle a le monopole de la lutte contre le terrorisme, il n'y a plus de concurrence des renseignements généraux, puisqu'elle groupe l'ex-DST et une fraction substantielle des renseignements généraux. Mais on lit que on n'aurait plus, avec cette DCRI devenue DGSI, qu'une vision du haut du spectre et que manquerait le renseignement territorial, la DGSI fonctionnant un peu en vase clos, coupé de ses racines. C'est ce qu'on nous dit.
Il faudrait effectivement y être pour pouvoir juger et répondre pleinement et directement à votre question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terrorisme, dans sa forme actuelle, est une réalité à la fois extérieure, qui commence dans les zones pachtounes entre l'Afghanistan et le Pakistan, et qui peut se terminer, ou à l'inverse commencer, dans une banlieue d'une métropole de province. Autrement dit, le terrorisme comme phénomène social et comme phénomène violent abolit les frontières classiques et les frontières tout court et les séparations administratives et juridiques. Et il n'y a pas de réforme et d'organisation antiterroriste parfaite. Le problème ne se pose pas seulement en France d'ailleurs. En Grande-Bretagne, toutes les démocraties libérales confrontées au terrorisme se trouvent confrontées à cette difficulté de trouver des organisations administratives adéquates pour lutter contre le terrorisme, qui est une lutte
repérer
très difficile.
Les simples opérateurs de base issus de la délinquance, et puis les groupes internationaux avec leurs satellites téléguidés. 2015, c'est aussi une date importante pour vous, parce que c'est la date de la première loi consacrée au renseignement.
C'est une date absolument centrale, c'est la première loi sur le renseignement que la République s'est donnée. Et là, la longue durée de l'exposition est pleinement justifiée. C'est à la fois une loi nouvelle qui donne des moyens supplémentaires en matière de lutte antiterroriste, mais c'est aussi une loi qui réforme le contrôle du renseignement, qui le réforme de façon assez radicale, prévoyant même d'ailleurs des capacités de recours de la part des citoyens auprès du Conseil d'État. Et donc, c'est une loi profondément républicaine dans un contexte terroriste.
C'est une loi aussi très vite débordée par l'état d'urgence. L'exposition à laquelle vous faites référence, qui est accompagnée d'un livre aux éditions Nouveau Monde, c'est aux Archives Nationales, le secret de l'État. Vous vous penchez aussi sur le 19e siècle, cher Mathieu Vidard.
Oui, c'est le jour où vous me signez ma dérogation, Jean, puisque je marche un peu sur vos plates-bandes. Deuxième émission consacrée à l'histoire des sciences et du savoir.
Mais non, vous, c'est modernité et globalisation, des points de vue beaucoup plus ambitieux encore que les nôtres. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, la préparation Martin Cellier, la technique Julien Chevassu.